rediffusion.
RFI, grand reportage.
Relancer l'industrie textile en étant plus éthique et éco-responsable, c'est le choix fait par la région des Hauts-de-France. Bastion historique de l'industrie textile en France est touchée de plein fouet par les délocalisations massives dans les années 80. En s'appuyant sur une tendance qui émerge, le changement de comportement des consommateurs vers le Made in France et la mode responsable, le changement est lent, mais la crise du coronavirus accélère le processus. Les Hauts-de-France, laboratoire d'une industrie textile éco-responsable, c'est un grand reportage de Lise Verbeck.
Donc bon, bah là on est dans le stock. Alors normalement, on va démarrer la visite par le stock de fil.
Ici, des centaines de bobines de toutes les couleurs sont empilées jusqu'au plafond.
En ce moment, ce qui marche pas mal, c'est, enfin beaucoup même, c'est le polyester coton. On mélange des fibres de polyester recyclées à partir de bouchons de bouteilles, des fibres de polyester coton, donc à partir de vêtements broyés, et on en refait du fil, comme par exemple là-haut le rose, l'indigo là, qu'il y a là. Ça, c'est un mélange de polyester coton. On avance vers l'atelier. Donc là, c'est plus bouillant maintenant.
Nicolas Antonino est le responsable d'atelier de l'entreprise Malter, une PME de 12 salariés installée à Moreuil, une commune au sud d'Amiens. Des kilos de tissus sont tricotés chaque jour dans cette usine centenaire, l'une des rares rescapées de l'industrie textile du coin.
Ça, c'est une production pour un client, justement, Made in France, et ils vont faire des t-shirts. Tout ça, c'est des aiguilles qui vont suivre un chemin de cam derrière ces portes. Voilà, ça, c'est une aiguille, là, il y en a 2200. C'est le même principe que le tricotage des grands-mères, hein. C'est pareil, en plus rapide.
Vous travaillez ici depuis combien de temps ?
Alors, la première fois que je suis venu travailler, bon, c'était pas en tant que responsable, mais c'était en 2003. Petit à petit, j'en suis arrivé là.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
On met des projets en route avec Laurent, on a des demandes de clients, on les concrétise, et puis voilà, finalement, on les voit des fois en magasin, tout ça, donc ça fait vraiment plaisir. Ça bouge pas mal, on est beaucoup sur le Made in France, les fils recyclés, il y a beaucoup de choses à faire.
C'est Lise ?
Oui, c'est Lise. Ça.
Vous préférez là ou là ?
Comme vous voulez.
Les carnets de commandes de l'entreprise Malter sont pleins car son dirigeant a su innover et s'adapter à la demande.
Il va falloir qu'on fasse des bureaux un petit jour.
Je suis Laurent Malter, responsable de l'entreprise éponyme de Moreuil.
Depuis combien de temps vous existez ? Vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de l'entreprise ?
Bon, alors l'histoire, je la fais en raccourci. Mon grand-père faisait des t-shirts, mon père des maillots de bain. Et puis, après les aléas de l'histoire, la guerre, etc., tout s'est un peu cassé la figure. Et moi, j'ai redémarré dans les années 80, dans une époque où le marché avait plutôt tendance à se délocaliser vers le Maghreb à l'époque. Donc, à contre-courant de la délocalisation. Bon, j'avais vaguement une culture textile, mais très faible. Donc pas de marché, pas d'argent, pas de moyens, il restait quelques machines un peu rouillées. On a démarré dans des conditions un peu rocambolesques. Et selon toute étude de marché et toute vraisemblance, on avait statistiquement à peu près zéro chance de s'en sortir. Donc pourquoi on s'en est sorti ? Je pense que c'est parce que on a fait ce qu'on nous a demandé plutôt que d'essayer de vendre ce qu'on produisait. De ce fait-là, en faisant ce qu'on nous demandait, ben, ce que les gens nous demandaient, c'est qu'ils ne l'avaient pas, et nous encore moins. Donc c'était nouveau, ça s'appelait de l'innovation. Ce qui nous a amené dans des spécificités particulières. Alors voilà, des trucs qui ont plus ou moins de succès. Et certaines de ces innovations avaient une extension mondiale, ont toujours une extension mondiale, comme par exemple les bandes pour les acrobates, ou les tissus pour les escrimeurs, ou des choses pour faire des housses de cercueil. Enfin, on a fait un tas de choses comme ça qui sont des innovations très, très particulières. Grâce à cette posture, on a pu survivre dans les années difficiles de la délocalisation des crises du textile. Donc c'est ce qui explique, à mon sens, pourquoi on a survécu. Et puis, il y a environ 7-8 ans, le marché du Made in France a commencé, enfin du Made in local, du recyclé, du bio, du propre, enfin de l'écologie, etc., a commencé à se dynamiser. Et dès le départ, on s'est engouffré dans cette opportunité de marché. Bon, il y a aussi, culturellement, ça nous allait bien. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu, pour nous qui sommes un micro-acteur sur ce segment de marché, c'est devenu quelque chose de très important. On estime notre segment de clientèle de gens qui achètent sur ce marché propre, vertueux, écolo, bio, etc., local, environ 5% des acteurs des consommateurs, ce qui est énorme pour le textile, ce qui nous propulse vraiment très très fort.
Oui, donc vous avez rendez-vous avec la Gentle Factory ?
Oui, c'est ça.
Ok, je vous ouvre la porte, on est à l'étage à gauche.
D'accord.
Les tissus en fibre bio ou recyclés de l'entreprise Malter se retrouvent notamment à 150 km plus au nord, à Roubaix, pour être transformés en t-shirt ou en sweat par la marque La Gentle Factory, start-up du textile spécialisée dans le Made in France et la mode éco-responsable.
Bonjour.
Bonjour. Enchantée.
Bienvenue chez nous.
Merci.
Je peux vous emmener faire un tour à l'entrepôt.
Oui.
Bon, c'est pas très propre et c'est voilà. Hein.
La start-up de 12 salariés s'est installée dans cette ancienne usine et c'est ici que sont imaginées les collections. Puis elles sont conçues dans la région par des travailleurs handicapés, vendues sur Internet et enfin envoyées dans toute la France depuis l'entrepôt de Roubaix.
Ça, c'est un t-shirt pour femme, c'est ça ?
C'est ça, en XL.
Et donc ça va partir à Rennes, c'est ça ?
Donc là, ouais, c'est ça, c'est un mondial relais, donc c'est un type de transporteur, et donc c'est le point relais qui sera à Rennes.
À l'origine de la Gentle Factory, il y a Christelle Merter. En 2013, elle crée cette marque au sein de Happy Chic, un gros groupe de prêt-à-porter nordiste pour qui elle travaille.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette marque ?
Certainement une pré-crise de la quarantaine avec une quête de sens et de est-ce que je mets bien mes idées et mon énergie là où il le faut. Et donc retour d'un dernier voyage au Bangladesh où j'avais l'impression de cautionner un système qui ne me correspondait plus. J'étais dans un groupe qui me permettait de monter un projet et donc comme le développement durable faisait partie de mon cœur de métier et que c'est quelque chose qui m'animait beaucoup, je me suis dit que commercialiser quelque chose qui correspondrait à mes valeurs et une offre mode et responsable au sein d'Happy Chic, il y avait quelque chose de beau à écrire.
Qu'est-ce que vous avez vu au Bangladesh ?
Au Bangladesh, on était là pour accompagner des fournisseurs dans une démarche de progrès, mais on était quand même dans un pays dans lequel il y avait quand même beaucoup de misère humaine et finalement j'avais l'impression de cautionner quelque part, même en accompagnant nos fournisseurs dans une démarche de progrès, j'avais l'impression de cautionner un système qui ne me correspondait pas, alors que produire localement en France de façon responsable, on était plutôt proche de notre territoire local et du coup avec un vrai impact de ce qu'on voyait et de gens avec qui on pouvait discuter et qui, quand on a mis en place nos premières entreprises adaptées et quand j'ai été visiter les usines et que des collaborateurs sur les chaînes de production me disaient « vous pouvez pas savoir ce que ça fait le matin de se lever et d'avoir un sens ». De se lever parce que j'ai un handicap et finalement du coup j'ai un travail et donc du coup je sers à quelque chose, ce que ça me fait tous les matins. Et ça c'est une dose d'énergie en se disant ben je fais quelque chose et j'en vois les conséquences tout de suite.
L'année dernière, estimant avoir les reins assez solides, Christelle Merter décide de ne plus s'adosser au groupe Happy Chic et elle se lance seule. La marque La Gentle Factory devient indépendante. Avec des t-shirts vendus en moyenne à 35 €, le prix est bien au-dessus de ce que peut proposer la grande distribution, trois fois plus cher, mais les clients sont au rendez-vous et la prise de risque a été mesurée.
Maintenant, on était quand même sur des indicateurs qui étaient assez intéressants et on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Je ne vous cache pas que le Covid aurait pu être quelque chose de dramatique pour nous. Et au final, ça a permis à nos clients de se recentrer sur le consommer moins mais mieux et le consommer local. Et finalement, ça a été une vraie crise de conscience de la dépendance avec des systèmes de production qui sont très loin. Et donc, du coup, nous, on en a fortement bénéficié, je pense. On a fait une très belle première année avec une croissance à deux chiffres. Et là, sur le début, sur notre site, on fait x2 sur notre chiffre par rapport à l'année dernière, qui était déjà sur une année en croissance. Donc, on pensait qu'il y aurait du coup une chute une fois que le confinement serait levé. Et pas du tout une vraie appétence du coup sur nos produits fabriqués localement.
Alors, gros scotch.
Et donc, ça va partir où ?
À Toulouse.
À Toulouse.
À Toulouse, dans une boutique à Toulouse.
Ouais, c'est ça, dans un concept store qui vend exclusivement des produits fabriqués en France. Voilà.
Ah, ça c'est bien.
Il y a juste le problème de la matière première. Du coup, c'est difficile de trouver de la matière première ici en France.
Effectivement, alors il y a bien un champ de coton qui est mis en place dans le sud avec Jean-Phil, mais qui produit de très très petites quantités et qui du coup ne permettrait pas d'inonder le marché pour fournir les besoins de nos confrères que sont le slip français 1083, Opal et nous par exemple. Et donc du coup, bah oui, nous on achète nos fils de coton biologique, on les achète en Pologne. Et le coton vient d'Inde. Voilà. Mais ils sont certifiés GOTS.
GOTS, c'est...
Global Organic, c'est ça. C'est Global Organic Textile Standard. C'est un label international qui, du coup, vous permet de garantir que votre coton n'a pas utilisé, enfin, n'a eu aucun pesticide. Et aussi que, socialement, il y a des audits sociaux qui sont réalisés jusqu'au champ de coton pour vérifier que tout est fait correctement.
Si la Gentle Factory s'est imposée dans le paysage français du textile éco-responsable, il existe dans les Hauts-de-France une multitude de petits entrepreneurs qui se sont lancés dans la mode éthique, avec comme valeur le respect de l'environnement et la relocalisation. C'est le cas d'Amélie qui a lancé il y a 2 ans sa marque qui s'appelle Trop Trop Bien. Après avoir travaillé des années dans la parfumerie, elle a repris des études de stylisme à Roubaix.
Je crée des vêtements et des accessoires upcyclés.
Donc recyclés.
Recyclés. Donc ça, exactement, c'est en français, c'est surcyclé. Donc le surcyclage, c'est vraiment un vêtement qu'on allait jeter parce qu'on jette encore hélas son vêtement, qu'on allait jeter ou mettre au relais parce que pour nous c'était plus portable. Je récupère ces vêtements-là et notamment particulièrement la chemise pour homme et je la transforme en blouse d'écolier. Je me suis lancée parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment il y a très peu d'alternatives aujourd'hui sur la mode infantile. Par le seconde main, en fait, il y a très peu de choses qui existent en mode responsable.
Est-ce que c'est difficile de faire son trou dans ce marché un peu nouveau de l'upcycling ?
Oui, c'est pas évident. Et je pense que c'est toute la difficulté de toutes les petites marques qui se créent actuellement. C'est communiquer et puis surtout c'est rencontrer aussi les gens au fur et à mesure. Donc j'ai eu l'opportunité de faire plein de ventes différentes, ponctuelles, un peu partout dans la métropole lilloise. Et c'est comme ça que j'ai pu faire découvrir Trop Trop Bien.
Bonjour. Bonjour, je cherche le plateau fertile.
Vous avez une porte,
ouais.
Et c'est le plateau fertile sur la porte.
Ok, super, merci beaucoup.
Pour aider Amélie et tous les autres entrepreneurs qui se lancent dans la mode éthique, il existe depuis 5 ans l'association Fashion Green Hub. Forte de 200 adhérents, elle réunit aussi bien les poids lourds du secteur textile dans les Hauts-de-France que des micro-entreprises, car l'idée n'est pas de les opposer mais de travailler ensemble. Arielle Lévy, l'une des vice-présidentes.
Il faut réinventer un autre mode de faire et c'est plein de briques qui vont s'assembler ensemble en maillant les différents écosystèmes. Et il y a des briques qui commencent à se construire, notre Fashion Green Lab, où on commence à concevoir des produits, à les penser par rapport au zéro déchet, par rapport à l'utilisation de ressources inexploitées, d'entreprises qui ont des gisements qui sont dormants.
Comme penser quoi, par exemple ?
Nos partenaires nous donnent des stocks de jeans, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire de ces nouveaux stock de jeans qui ont pollué, etc. Donc nous, on va repenser des produits, une housse d'ordinateur, une pochette à pain. Et donc finalement, on ne va pas générer d'impact environnemental. On a besoin d'être concret. Et puis derrière, ça va donner des idées peut-être à des plus grands faiseurs des entreprises, parce qu'on va montrer qu'on peut faire différemment et penser un produit différemment. Et puis ils vont finalement nous confier la production de séries plus importantes. Voilà, nous, on est là pour aussi, avec un laboratoire, on réfléchit en amont, on rassemble les gens lors des événements, on pense différemment, on montre des choses qui donnent des envies aux gens de travailler différemment. Nous, on est là un peu pour essayer d'ouvrir concrètement les choses qui restent à faire.
L'association Fashion Green Hub a également créé le plateau fertile dans une ancienne filature de Roubaix. Ici, les porteurs de projets ont accès à un atelier de confection avec des machines à coudre ou encore une imprimante laser à jet d'encre à eau, le tout moyennant un abonnement mensuel. Il y a aussi un espace formation où l'on peut apprendre à faire des prototypes virtuels pour être plus efficace ensuite dans la fabrication. Un tiers-lieu qui permet aux entrepreneurs de tester, d'innover et de produire des mini-séries.
Vous êtes en train de faire quoi là ?
On est en train de faire les caleçons,
d'accord. Pour quelle marque, du coup ?
La vie est bête.
D'accord,
super.
Ah oui, ok.
Au plateau fertile, il y a aussi des couturières comme Jenny. Elle couse ce jour-là des caleçons pour hommes faits en tissu recyclé pour une start-up lilloise.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la couture ?
C'est le fait d'être en contact avec la matière, de toucher, de voir les choses se former.
Vous avez fait des études de couture ?
Oui, j'ai un bac pro dans la couture, ainsi qu'une formation de retoucheuse.
C'était facile de trouver du travail.
C'était quand même assez compliqué. En toute honnêteté, je ne pensais pas un jour réussir à travailler dans ma branche. Mais en fait, j'ai eu, on va dire, un petit coup de pouce, un petit coup de chance du destin. Je me suis retrouvée là, quoi, un peu par hasard.
La branche, elle est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'emplois.
Ben, y a très peu de place, en fait, on va dire. Après, c'est vrai que, on avait beaucoup d'usines dans le nord de la France qu'ils ont fermé. Et avec ça, donc, le chômage, etc. Mais bon, ça revient, quoi. Donc,
c'est bien.
Voilà.
La filière de la mode circulaire, moins polluante et qui réutilise des déchets existants, se structure peu à peu dans la région Hauts-de-France. Mais le modèle économique de ce marché de niche est encore fragile. Et bien sûr, au bout de la chaîne, il y a le consommateur. Alors est-il prêt à payer plus cher pour un vêtement local et éco-responsable ? Réponse avec Maud Herbert et Isabelle Robert, qui sont chercheuses à l'Institut du marketing et du management de la distribution à l'Université de Lille.
Alors oui, alors il y a des chiffres qui en attestent. Hein. En fait, ce qui était perçu auparavant comme anecdotique ou en marge du marché prend beaucoup d'essor au cours des trois dernières années. On a des... Alors après, ça reste quand même parfois des sondages déclaratifs, mais on voit que les gens décident en fait de ne plus acheter de vêtements. Et dans cette décision, une part de cette décision, elle réside dans plusieurs motivations. La première, c'est que généralement, c'est économique. Par contre, les consommateurs font monter la motivation qui est surtout l'endroit où les vêtements sont confectionnés. Et ça, c'est ce souci de la confection du vêtement, des conditions de travail dans lesquelles ils sont confectionnés. C'est quelque chose qu'on a vu monter en puissance. On peut même le dater, hein, puisque ça date du Rana Plaza, donc il y a une dizaine d'années, quand le Rana Plaza s'est effondré, ça a marqué les esprits. Oui, tout à fait. Je pense que ça a marqué à la fois, et nous on l'observe, à la fois les confectionneurs et les distributeurs, et puis aussi le public. Après, il y a aussi des militants qui sont sur le terrain, qui donnent les clés de compréhension aux consommateurs. Il faut savoir que le consommateur a toujours été finalement assez à l'écoute d'un certain nombre d'informations qu'on lui donne, à partir du moment où il est capable de les décrypter, il va les utiliser. Il y a toujours un décalage qui existera ad vitam, hein, entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire. Sur le vêtement, ce qu'on observe, nous, par rapport à d'autres secteurs, c'est que ça va un peu plus vite que dans, par exemple, l'alimentaire sur lequel on a travaillé pendant longtemps. L'alimentaire, ça a été assez long et la clé d'entrée, ça a été plus le risque sur la santé. Et là, on voit que sur le vêtement, il y a une clé d'entrée qui est les conditions de travail. Donc ça, c'est pas si simple à matérialiser, mais il y a une demande, une attente forte. Et puis, on voit aussi un peu arriver la clé de la santé, en tout cas, des fibres naturelles, d'avoir envie de savoir ce qu'on se met sur le dos et par qui c'est fait.
Et quitte à payer plus cher si c'est...
Non, justement, ouais. On va trouver d'autres solutions. Quand on parle de mode responsable ou de mode circulaire, on n'est pas que sur les vêtements neufs. Il y a la seconde main et puis après le upcycling. Il y a aussi tout ce qui va être réparation et on voit aussi des éléments qui bougent là pendant le confinement, des gens qui ont fait un état des lieux de leur dressing. Ils avaient du temps, et de se dire, effectivement, peut-être réparer, voilà. Donc, la mode responsable, elle n'est pas que par rapport aux nouvelles fibres, donc un prix bien plus élevé, des super conditions de travail. Il y a à penser aussi toutes les étapes successives qui permettent d'atteindre la mode circulaire.
Dans les Hauts-de-France, le textile redevient donc un axe stratégique. Les acteurs institutionnels s'engagent de plus en plus pour soutenir la filière, comme la région ou encore la métropole européenne de Lille, qui subventionne des projets, des recherches sur la valorisation des déchets, du recyclage, pour tendre vers une industrie plus verte. La métropole a aussi lancé cette année les trophées de la mode circulaire pour récompenser et aider les projets innovants.
Les Hauts-de-France, laboratoire d'une industrie textile éco-responsable. Un grand reportage de Lise Verbeck, réalisation Pierre Chaffange.